Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin l'auteur et chargé d'enseignement à l'Université Lyon 2, Michel Knobuller. Bonjour Michel Knobuller.
Bonjour.
Votre ouvrage, La perte et la mémoire, vandalisme et sentiments du patrimoine à Lyon, est sorti aux éditions Phage. Vous l'avez coécrit avec l'ancien adjoint à la culture Patrice Béguin. Comment vous êtes-vous attelé à ce travail sur la destruction de notre ville? C'est pas un thème qui est évident quand on parle de patrimoine et de culture.
Alors rendons à César ce qui est à César. C'est Patrice Béguin qui a eu l'idée de ce livre et qui a bien voulu m'y associer.
Ouais.
L'idée, c'est d'analyser au fond, au cours des deux millénaires de l'histoire de Lyon depuis l'Antiquité, la tension qu'il peut y avoir entre d'un côté les moments où l'on détruit la ville ancienne et les moments où des personnalités, voire des collectifs, prennent conscience que l'avenir d'une ville se construit aussi avec son héritage.
Aujourd'hui, on s'émerveille à Lyon de découvrir à chaque chantier ou presque des vestiges de l'époque, notamment gallo-romaine. Pour vous, ça veut surtout dire qu'il y a eu des périodes où l'on n'a pas pris soin du patrimoine, voire même qu'on l'a délibérément détruit?
Alors, il y a deux choses. C'est d'une part que la ville antique a, pendant un bon millénaire, a complètement disparu. Hein, on l'a redécouverte, grosso modo, au XVIe siècle.
Oui.
Et ensuite, en effet, il y a des moments où il y a eu prise de conscience qu'il s'agissait d'un héritage intéressant. Et c'est d'ailleurs très remarquable que dès 1528, en pleine Renaissance, hein, le consulat de Lyon, l'équivalent, si vous voulez, toute proportion gardée de notre conseil municipal, prend la décision d'acquérir la table claudienne que l'on découvre sur les pentes de la Croix-Rousse, ce qui est un acte tout à fait important en matière de prise de conscience du patrimoine.
Oui.
Et puis, à côté de cela, il y a en effet des périodes où la ville détruit de façon très violente des pans entiers de ces quartiers, voire des monuments très remarquables. Alors là-dessus, le 19e siècle, quand on a détruit la majeure partie des couvents de la Croix-Rousse pour construire sur les pentes qu'on connaît actuellement, quand on détruit la presqu'île, le nord de la presqu'île sous le préfet Weiss, c'est l'équivalent du vieux Lyon aujourd'hui que l'on détruit, hein. Bon, pour en même temps construire quelque chose de grande qualité architecturale. Hein. Et puis, parfois, on détruit des monuments exceptionnels. En couverture, nous avons choisi une photo de la destruction de l'hôpital de la Charité,
oui.
1934-1935, ça n'est pas si loin de nous. On a détruit un ensemble bâti d'une extraordinaire qualité. Certains, d'ailleurs, pensent que des parties pouvaient être attribuées à Philibert Delorme. Vous voyez, bon. Donc voilà, c'est cette histoire qu'on a essayé de raconter, comment cette ville a à la fois détruit des éléments majeurs, soit de son architecture, soit de son urbanisme,
oui.
Mais comment aussi, et c'est tout le paradoxe lyonnais, hein, cette ville, on sait depuis Michelet, que c'est une ville extrêmement paradoxale, eh bien, comment aussi des gens ont eu conscience, et éventuellement très précocement, qu'il fallait sauvegarder ce patrimoine.
Vous essayez dans l'ouvrage de ne pas trop donner votre avis, en tout cas de ne pas passer pour des donneurs de leçons. On sent pourtant qu'il y a des vandalismes qui vous ont fait bouillonner avec Patrice Béguin. Vous l'avez dit, l'hôpital de la Charité, il y a aussi cette place des Cordeliers.
Ah oui, la place des Cordeliers, aujourd'hui, n'est plus une place. Hein. Quand on regarde les vues anciennes, on se rend compte qu'il y avait là un ensemble assez remarquable qui, du coup, a disparu. Alors, d'une part, avec la construction du pont, mais aussi avec la destruction de la halle des Cordeliers, qui là aussi, c'est le début des années 70, ça n'est pas si loin que ça. Et à la place, honnêtement, on a construit un parc de stationnement qui n'est pas chef-d'œuvre d'architecture. Voilà. Donc oui, c'est une place qui a un peu souffert au cours de l'histoire, alors même qu'elle possède des bâtiments très remarquables de diverses époques, l'église Saint-Bonaventure, bien sûr, la chambre de commerce et d'industrie, qui est un très remarquable bâtiment du 19e, et puis même l'héritier du Grand Bazar, le Monoprix, est une réalisation intéressante. Mais peut-on encore parler de place des Cordeliers ?
Vous l'avez dit, ce sont ces derniers siècles qui finalement ont connu le plus de vandalisme. Les maires n'ont pas toujours été très précautionneux avec Lyon. D'ailleurs, les premiers noms qui nous viennent en tête lorsqu'on évoque les symboles actuels de notre ville, ce sont Tony Garnier, Gérard Collomb, Édouard Herriot, Jean Nouvel, Louis Pradel. Ça prouve bien que notre ville a un visage très contemporain.
Alors, c'est aussi l'histoire un peu générale de la France, voire de l'Europe,
oui.
Avec cette formidable expansion qu'a connue le 19e siècle, puis le 20e, à la suite de la révolution industrielle et de l'urbanisation peu à peu de la société. Évidemment, les villes ont eu besoin de s'adapter au flux de nouveaux habitants, aux nouvelles activités qu'elles accueillaient. Et en particulier, Lyon, lors de la Révolution industrielle, est une des villes majeures en Europe pour ce type d'activité. Chose qui a aujourd'hui à peu près disparu des 9 arrondissements.
Oui.
Je ne parle pas de la périphérie. C'est sûr que c'est surtout au 19e et au 20e qu'on a beaucoup détruit, mais parce que la ville s'est considérablement accrue, à la fois dans sa démographie et dans son territoire.
Mmh. Vous souhaitez rendre hommage à ces quelques personnes qui un jour se sont soulevées contre cet urbanisme destructeur. Par exemple, on l'oublie régulièrement, mais le quartier Saint-Jean, le vieux Lyon, était voué à être rasé.
Oui, alors il faut rendre hommage à la fois à des individus, des intellectuels, et éventuellement très tôt, hein, je pense. On a consacré un encadré à Gabriel Simeoni, qui au XVIe siècle chante les qualités patrimoniales de Lyon. Mmh. Mais il faut aussi rendre hommage, aux associations. Songez, alors vous parlez du vieux Lyon, on ne peut pas ne pas évoquer, et on en consacre évidemment des pages à ce travail, à la renaissance du vieux Lyon, qui a vraiment été le ferment de la sauvegarde de ce secteur sauvegardé. Hein, que c'est le premier secteur sauvegardé reconnu en France, 1964, à la suite de la loi Malraux. Et donc, non seulement le vieux Lyon a été sauvegardé, l'autoroute que prévoyait d'y faire passer Louis Pradel n'y passe pas,
oui.
Fort heureusement. Mais en plus, le quartier est resté un vrai quartier où l'on vit, où il y a des fonctions urbaines, administratives, scolaires, universitaires, culturelles, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail remarquable qu'a fait la Renaissance du Vieux Lyon. Mais nous, par exemple, nous nous interrogeons aussi sur le patrimoine industriel. Et quand on regarde le patrimoine industriel de Lyon, les bâtiments très peu ont subsisté,
oui.
Mais la mémoire industrielle de la ville est essentiellement portée par le milieu associatif ou la société civile. Songez à l'automobile. L'automobile, Lyon est une des villes majeures des débuts de l'automobile. Il ne reste à peu près rien en termes de bâtiments.
Oui.
Et la mémoire métallique, comme disait Paul Berlier, c'est la Fondation Berlier qui conserve cette mémoire métallique et des objets, des camions ou des voitures, mais aussi des archives que tous les historiens de l'automobile de toute la planète viennent consulter à Lyon, et c'est une fondation privée. Même chose pour la soierie. Il y avait des milliers de métiers à tisser sur les pentes de la Croix-Rousse. Aujourd'hui, il y en a deux qui sont sauvegardés à la maison des Canuts et à la soierie vivante. C'est des choses absolument majeures dans l'histoire de la ville. La soie a fait vivre la ville entre le XVIe et le XXe siècle, hein, pratiquement, qui a été la sauvegarde de cette mémoire est due à la société civile. Donc oui, nous rendons hommage évidemment à ces collectifs, à ces associations, à ces fondations, parce qu'elles ont joué un rôle majeur. Aujourd'hui, la ville a une partie de son hypercentre inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en novembre dernier, Lyon est devenu a pris la présidence de l'Organisation des villes du patrimoine mondial.
Oui.
Donc, c'est bien dire qu'il y a une prise de conscience très forte aujourd'hui que pour construire la ville de demain, il faut s'appuyer sur la ville d'hier.
Avec ce que vous venez de citer, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y a aussi l'UNESCO, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, Lyon, et protégée du vandalisme. On voit par exemple que le projet en cours de l'Hôtel Dieu fait grincer encore quelques dents.
Alors, je dirais que sur l'architecture, je pense qu'il y a aujourd'hui, en effet, un certain nombre de garde-fous qui permettent de protéger la ville. Alors, ces garde-fous sont soit la législation, la réglementation nationale, ça peut être aussi les dispositions du plan local d'urbanisme et d'habitat, etc. Et puis, c'est bien sûr, évidemment, le plan de gestion du site historique UNESCO, qui déclenche une politique du patrimoine à l'échelle de l'ensemble de la ville et même de la métropole.
Oui.
Voilà. Après, je pense que la vraie question qui se pose aujourd'hui à Lyon, c'est la question des mémoires. Il y a des pans de la mémoire de la ville qui ne sont pas pris en charge actuellement ou peu pris en charge par des institutions publiques. C'est beaucoup porté par le milieu associatif, et fort heureusement, ou un certain nombre de chercheurs, de personnalités.
Oui.
Et là-dessus, sans doute, peut-on penser qu'il serait intéressant que ce soit à l'échelle métropolitaine. Alors là, je reviens encore sur le patrimoine industriel. Je pense que cette question-là pourrait être traitée à l'échelle de la métropole, de façon en plus à souligner le sentiment d'appartenance de l'ensemble des 1 300 000 habitants qui habitent cette métropole. Mmh. S'il y a quelque chose qui leur est commun, c'est bien le fait que le développement de ce territoire est largement dû aux activités économiques qu'il a accueillies.
Merci Michel Knobuller.
Merci à vous.
Je rappelle la sortie de votre livre « La perte et la mémoire » aux éditions Phage. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.